Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Vous êtes sur RMC, il est 15h03, c'est le Super Moscato Show avec une Dream Team inédite. Alors vous connaissez par cœur Eric Dimeco, salut Eric.
Salut Pierrot, salut à tous, je ne sais pas qui est autour de
vous
la table.
Vous connaissez très bien suspense. Stephen Brun, salut,
salut Pierrot, salut Eric, je ne sais pas qui est autour de la table, alors j'arrête là.
Évidemment avec Adrien, salut les copains. Et attention, il prend de l'ampleur. Il est en train de prendre de la place de plus en plus dans la Dream Team, c'est Jérôme Pinault qui est avec nous cet après-midi. Bonjour Jérôme.
Salut les copains.
Salut Jérôme.
C'est plus un simple flic, hein, Pinault.
Jérôme qui a un petit problème de train aujourd'hui qui est pour venir sur Paris.
Ah bon, non, toi
c'est
aussi
c'est pas moi qui ai un problème de train, c'est que le train a un problème avec la chaleur. La France est un pays où il fait froid toute l'année normalement, et dès que ça passe des fortes températures. Mais écoute, on annule en prévenant les passagers.
Ça vaudrait un petit édito de Eric Dimeco sur l'état de la France.
A priori, on a subi la même chose.
Mais il m'est arrivé la même chose. Sauf que moi j'y étais dans le train.
Et moi aussi, et je suis descendu.
Et vous dites rien, vous laissez faire, vous.
Ah ouais, comme ça. Non, mais là ça va plus. Là, c'est la chute. Non, c'est
Eric, Eric, j'ai quand même l'impression que ça t'a arrangé. Hein.
Ah oui.
Ah oui, carrément. Eric sans filtre.
Avant la question, moi, nous allons accueillir une très grande championne, habituée du Super Moscato Show, Clarisse Agbegné-Nous. Salut Clarisse.
Salut.
Bonjour Clarisse. Salut. En forme.
Je suis en forme. Est-ce que ça se voit ou pas?
Ça se voit, Clarisse. On va parler évidemment de toi, de ta carrière après cette deuxième grossesse, un défi spectaculaire que tu vas nous raconter dans un instant. On démarre avec la question moyenne.
Coupe du monde, Kylian Mbappé. Je pense, Eric, qu'il a pris feu. Ça y est, comme on se posait la question, voilà, Coupe du monde, va-t-il prendre feu? Il est en train de prendre feu. Quel est le plus probable pendant cette Coupe du monde? Kylian Mbappé ne marque plus aucun but là.
Terminé 4.
Dans les matchs, il s'arrête à 4. Ouais. Panne de secteur, c'est fini. Mmh. Comme les trains en France, il marque plus. Ou il dépasse, il bat le record de Juste Fontaine sur une Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il termine
13.
À 14.
À 14.
Il bat le record, 14.
14,
c'est-à-dire que le feu.
Il faut en mettre 10 là encore.
Il faut en mettre 10. Il en a mis 8 la dernière Coupe du Monde.
Il y a 8 matchs.
Il y a 8 matchs. Tout est possible.
Il en reste 6.
Tu peux pas mettre une balle au centre là?
Comment non, on peut pas faire une balle au centre?
C'est une question moyenne.
Est-ce que tu imagines que Kylian s'arrête, il marque plus là?
Non, ça, j'y crois pas. J'y crois pas du tout.
Donc, plutôt les 14 buts.
Plutôt les 14, allez.
Allez, les 14.
Je lance un petit pari.
La médaille d'or, c'est bon.
Ah oui, il faut.
Moi, je pense qu'il va encore mettre des buts. Donc, on va partir sur 14.
14, il bat Juste Fontaine. Eric?
Oui, bon, pour moi, c'est impossible qu'il la mette plus. Donc, plus il la mettra, plus il se rapprochera.
Jérôme Pinault.
Mais pareil, il va en mettre encore, c'est sûr. Il, comme tu dis, prend feu. Donc le record, pourquoi pas le record.
Le record. Pierre,
les
allez, vas-y.
Deux me semblent impossibles.
D'accord.
Mais
quel rabat-joie.
J'ai fait mon rabat-joie jusqu'au bout.
Michel Nati.
J'ai fait mon rabat-joie jusqu'au bout. On ne sait jamais. La France peut perdre sur un match éliminatoire rapidement.
Et donc il marque pas contre la Norvège.
Ça s'arrête en huitième. Il marque contre la Norvège. Non, il marque pas contre la Norvège.
Il marque pas le 16e, il marque plus.
Le 16e et c'est fini. Voilà.
On sait jamais, hein.
Tu as oublié une notion, c'est qu'il a quand même des mecs autour de lui sur cette Coupe du Monde qui vont lui gaver de ballons.
Après, on ne sait pas ce que Didier Deschamps va faire contre la Norvège. Hein. On va en parler
après. S'il a réellement pris feu, j'ai regardé la dernière Coupe du Monde, il y a quand même 3 matchs, me semble-t-il, où il ne marque pas du tout de but. Hein. Donc,
ça arrive. Hein,
parfois, il marque beaucoup sur un match.
Allez, dans un instant.
Sur Twitter, le record battu, Pierrot. Vous êtes optimiste. Record battu de Fontaine à 57%.
C'est pas énorme.
Faire gaffe parce que le record, ça peut être Messi qui le fait avant.
Ah oui.
Non,
ouais, mais c'est pas ça peut être Harry Kane. Clarisse Agbegné-Nous avec nous aujourd'hui dans le Moscato Show. Ensuite, on parlera de la finale du Top 14 avec Montpellier. Comment ne pas faire un complexe d'infériorité face à Toulouse? Et puis l'équipe de France, Dembélé, Ousmane Dembélé a marqué. Croyez-vous à la théorie du ketchup? Une fois que ça vient d'un coup. Et là, les buts vont s'enchaîner. Maintenant pour Ousmane, le journal moyen, Adrien.
La première édition du journal moyen. très intéressant. On va décrypter parce qu'on a essayé de veiller cette nuit. Quelle est l'audience de ce match très particulier? On n'a jamais vu ça. Un match qui dure plus de 4 heures. Ça a pas mal marché. Ça a vraiment très bien marché. Et puis une petite page canicule, c'est le sujet du moment. Oui, Eric.
Il y en a qui se sont endormis dans le groupe parce que j'ai lu des échanges de textos.
À la mi-temps, quand ils ont dit on ne sait pas quand ça reprend, je suis parti dormir.
Allez, mais non, il fallait zapper sur la chaîne d'après. Et il y avait pour la 63e fois, il était une fois en Amérique, que j'ai regardé encore une fois jusqu'au bout. J'adore ce film, c'est mon film préféré.
Je vous rappelle que la prime de match sur RMC s'élève désormais à 36 500 euros. Donc si on vous appelle pendant que vous écoutez RMC et que vous avez le bon montant, la prime est pour vous. 36 500 euros, on ajoute 500 euros à chaque but dans cette Coupe du Monde. Il y aura deux occasions de vous inscrire pendant le Super Moscato Show. Avant de parler avec Clarisse de la suite de sa carrière, nous partons à Philadelphie où l'équipe de France a donc battu l'Irak 3-0 hier avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Bonjour Jean-Louis. Et ces Bleus qui ont dû gérer une situation inédite avec cette mi-temps qui a duré 2 heures en raison des orages.
Oui, alors c'était du jamais vu pour tout le monde. Donc une mi-temps, non pas de 15 minutes comme on le pensait quand elle a été sifflée à 23h48 heure française, mais de 2h12, du jamais vu même pour Didier Deschamps, le sélectionneur.
C'est des conditions particulières. On pourra dire qu'on l'a connu une fois. J'espère que c'est la première et la dernière. Après, je comprends. À partir du moment où il n'y a pas de risque à prendre. Donc, c'est le plus long match et la plus longue mi-temps où j'ai pu être sélectionneur. Bon, ça n'a pas d'impact sur le résultat. Je savais très bien qu'il fallait qu'on joue ce soir de par le calendrier. Après, derrière, il n'y a pas de possibilité de rejouer demain.
Et avant la reprise, il y a donc eu l'attente longue, incertaine, puisque les organisateurs ont repoussé le coup d'envoi à chaque fois 30 minutes en 30 minutes, dès qu'un éclair tombait aux alentours. Alors les joueurs sont adaptés en faisant quelques activations dans le vestiaire, comme du vélo, en prenant une collation, en discutant de la première période. Pas simple à gérer, comme l'a expliqué le capitaine Kylian Mbappé.
C'était une soirée très longue déjà. On a passé beaucoup de temps, émotionnellement, nerveusement, c'est très difficile. On devait rester concentré, on devait rester concerné dans le vestiaire. Rester 1h30, quasiment 2h dans le vestiaire, ça demande beaucoup. Les joueurs ont fait un grand effort, le staff aussi, pour essayer de laisser concerner tous les joueurs, c'est très compliqué.
Voilà, Mbappé qu'on a aperçu au moment de l'échauffement pour reprendre quand il pleuvait encore. Il n'y avait plus de menace d'éclair, mais il pleuvait toujours. Il donnait des directives aux jardiniers pour qu'ils s'occupent des bonnes zones qui étaient gorgées d'eau. Et alors en tribune aussi, il a fallu patienter.
Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait, Jean-Louis ?
Et pendant après une heure d'attente, le public en a eu marre. Donc ils sont passés en mode soirée, des chants, un karaoké géant. En même temps, au prix que coûtent les billets, on ne quitte pas le stade même après 4 heures d'attente.
Et précisons que c'est une règle liée aux États-Unis. Oui. Hein, c'est pas une règle liée au football, donc a priori on reverra pas ça dans une autre compétition hors États-Unis.
On a les images de Pierrot à faire la queue, non? On l'a pas?
De quoi?
On n'a pas les images de Jean-Louis à faire la queue.
Mais d'accord, Jean-Louis. On n'a pas les sonores pendant 2 heures de Didier Deschamps dans le vestiaire. Il a dû parler quand même.
D'ailleurs, vous, tiens, Clarisse, quand vous faites une compète de judo, c'est que ça. Hein. C'est se réactiver musculairement parce qu'entre deux combats, il peut se passer une heure et demie parfois.
Oui, c'est ça, une heure et demie ou 2 heures, même surtout en début de matinée. Après, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, comme il y a les JO. À Los Angeles, peut-être que ça va se reproduire au jeu pour peut-être les footballeurs.
Bon, vous n'êtes pas embêté avec les orages, mais pour les footballeurs,
ça peut se reproduire. Nous, on sera bien.
Eric,
tu sais que c'est déjà arrivé que des joueurs de golf soient
foudroyés.
Non, mais ça rigole pas. Hein.
Oui, parce que si vous écoutez régulièrement Basket Time, j'en profite pour faire ma pub. Et ben, vous avez eu un quiz sur les orages grâce au Thunder d'OKC et vous savez donc désormais ce qu'il faut faire. En cas d'orage, il ne faut surtout pas pointer vers le ciel.
Voilà. On va
le tester. Quand tu lèves ton golf vers le ciel, c'est très dangereux.
Ah ouais.
Allez, tout de suite, même Didier Deschamps a tenu à célébrer la journée olympique sur RMC.
RMC, le Super Moscato Show. La France a vibré au rythme des victoires.
Fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire.
Des performances.
C'est là où ils ont été performants.
Paris était au rendez-vous.
La bonne humeur, l'enthousiasme, la joie de vivre qui se dégage.
C'est en France, chez nous, oui.
Que retenir de ce grand frisson?
Elle est médaillée de bronze, Clarisse Agbenedou, après ce hippon.
Des exploits.
Que on a tendance à reproduire.
Trop nombreux pour tous les citer.
Beaucoup de choses et puis de retranscrire peut-être.
Tout l'été, des spectateurs émerveillés.
Des images, des émotions qu'on
n'aurait pas pu avoir avant, un instantané.
Une image qui restera le symbole de ces Jeux de Paris.
Et c'est une formidable aventure sportive, mais aussi et avant tout une aventure humaine.
Ouais, quoi, Clarisse Agbegnénou, bien sûr.
Agbegnénou.
Agbegnénou.
Breaking news. Clarisse Agbegnénou, triple championne olympique de judo, sextuple championne du monde et quintuple championne d'Europe. Clarisse, ça, j'ai vu rigoler pendant les
matchs.
Ça te gêne pas qu'on se moque du sélectionneur de l'équipe de France de foot?
Non, mais c'est bien ici, c'est toujours toi, la rigolade, c'est bien, c'est on se taquine un peu, c'est rien.
Alors, c'est la journée olympique aujourd'hui et donc on en profite pour recevoir une des plus grandes championnes de l'équipe de France olympique, engagée dans un nouveau défi encore plus difficile que Paris 2024 puisque eh bien tu es désormais maman de deux enfants. Dakota est née au mois de mars.
C'est ça, exactement. Mon petit bout de 3 mois qui est vraiment adorable. Et je dis pas ça parce que c'est mon fils, mais parce que c'est vrai.
C'est plus fort, quoi.
Non. J'ai pas dit ça encore, je ne sais pas. Mais il est vraiment adorable.
Naissance au mois de mars, t'en es où de ta reprise, Clarisse?
Alors, j'ai très bien repris et je pars ce soir au Japon pour un stage. Donc, franchement, je suis contente. J'ai commencé un premier stage il y a un mois aussi en Espagne avec l'équipe de France. Tout s'est très bien passé. Je m'entraîne bien, je me sens bien. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant.
Physiquement, si tu te mettais une jauge, tu dirais que tu as combien de pourcents?
Après, je suis dure avec moi-même, mais je dirais quand même, allez, je mets un peu tous les curseurs. Je dirais pas mal de 70%.
T'as repris beaucoup plus tôt qu'avec Athéna. 12 jours après, t'étais déjà à l'INSEP pour la réathlétisation.
C'est ça, j'étais déjà à l'INSEP pour la réathlétisation 12 jours après. Je me sens bien vraiment directement. J'ai eu un bel accouchement, rapide, sans problème, sans péri encore. Donc tout s'est très bien passé. Et en fait, je me faisais chier à la maison.
Tout simplement. Alors sans péridural, c'est un choix ou c'était les circonstances?
Non, c'est un choix.
Alors,
c'est un choix et en plus les circonstances ont fait que c'était rapide, donc c'est génial.
Faut avoir un mental de championne quand même, parce que la péridurale, ça soulage de douleurs quand même violentes.
Ça fait mal. Franchement,
et
ça fait
mal.
Parce que déjà j'ai de la chance avec Athéna où j'ai réussi à tenir sans et ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problématique derrière et c'est vrai que je suis quelqu'un qui prend très très peu de médicaments. J'aime bien pouvoir ressentir les choses, faire un peu à ma façon. Par contre, je suis pas contre. Si ça devient dangereux pour moi ou pour l'enfant, j'en suis pas contre. Mais si j'arrive à tenir et trouver une solution autre, donc j'ai fait de la sophrologie, je me suis entraînée hein, comme en compétition. Pour moi, c'était pareil. Comme une compète, mais franchement, c'est très très bien passé cette compète.
Alors Clarisse, tu as été championne du monde en 2023, moins d'un an après la naissance de ta fille Athéna. Cette fois-ci, quel est l'objectif?
Alors l'objectif, j'espère en tout cas être sélectionnée pour faire une compétition fin août. Donc okay. Voilà, donc j'attends les sélections.
Tournoi.
C'est un grand slam. Okay. Donc j'attends les sélections, mais je pense qu'on saura très rapidement d'ici une ou deux semaines. Et après, j'espère que je pourrai être sélectionnée aux championnats du monde qui sont en octobre.
Alors les championnats du monde, c'est en octobre en Azerbaïdjan. Donc tu penses faire une seule compète avant?
Oui, oui, il ne faut pas trop se cramer. Il faut que je m'entraîne encore. Je suis 70% et il y a une jauge encore qui est longue. Donc il faut que je m'entraîne. Et une compète, ça sera bien. Et puis, oui, et puis voilà, de toute façon, pour les championnats du monde avec Athéna, officiellement, j'ai fait qu'une compète aussi avant. Officieux, j'en ai fait une avant où je me suis blessée. Donc, une, ça sera bien. Comme ça, je serai préparée pour.
Là, t'as repris le judo. Tu prends les sparring, tu fais.
Ah oui. Ouais. Je suis allée déjà en stage équipe de France, en Espagne. J'ai repris le judo depuis un petit moment. Et là, je pars au Japon pour 17 jours de stage judo.
Et là, tu emmènes la famille, Clarisse, en stage?
Alors, j'emmène le petit, mais du coup, la grande, elle restera avec son papa, parce que c'est la fin d'année d'école et j'ai pas envie de la changer. Déjà qu'elle.
Puis en avance, elle a le bac.
Voilà, elle a le bac, elle a le brevet.
C'est pas possible.
Non, je la laisse un peu dans son petit cocon. Ça va être dur pour moi, mais bon.
Physiquement, même, je pas dans la tête, par rapport à la première grossesse, ça te sert d'expérience pour être mieux, plus rapidement, ou c'est un peu plus galère parce que t'as un peu plus d'âge, parce que t'es un peu plus fatigué peut-être?
Eh bien, je pensais ça. Et finalement, je me sens encore mieux que la grossesse d'Athéna. Je ne sais pas ce que ça va donner vos compétitions, parce qu'il y a plein de facteurs.
Dans la phase de reprise.
Mais la phase de reprise, déjà, j'ai commencé avant à travailler sur mon périnée, donc avant la grossesse. J'ai continué directement après. Donc finalement, j'ai perdu, bien évidemment, parce qu'il y a quand même un chamboulement du corps et des hormones. Mais j'ai vite récupéré. En fait, tout ce qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe, même cette réathlétisation, toutes les choses qui sont mises autour de moi, me sert aujourd'hui. Et je peux dire dire que je me sens vraiment en forme. Et si fallait faire, à part, voilà, on sait qu'avec le judo il y a des catégories de poids, oui. À part la catégorie de poids, ben, je pourrais faire une compétition d'ici la fin.
J'ai l'impression que tu as mis à l'amende quelques personnes, hein, sur ta reprise d'entraînement.
T'en as couché quelques-uns.
Clarisse, à quel moment dans ta prépa tu donnes les consignes de dire ben, ça bon, maintenant ça y est, je suis plus une maman récente, on attaque comme une vraie athlète, on prend plus en compte l'accouchement, ça y est, c'est bon. C'est toi qui donnes le feu vert ou c'est ton équipe qui sait gérer ces moments-là et qui dit bon, maintenant on passe on a de nouveau affaire à l'athlète et on avance comme ça.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe, on travaille tous ensemble. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui donne une directive ou une autre. J'ai tout autour de moi et en fait, on se parle. Et il y a des moments où moi, je me suis poussée avant en leur disant je me sens bien, est-ce qu'on peut accélérer sur ci ou sur ça. Okay. Par contre, vous êtes là pour me dire ah, là, je ne te sens pas bien, vous avez aussi une vision. Donc, je pense qu'on a été tous, on s'est tous écoutés, on s'est tous entendus. Et finalement, oui, j'ai repris beaucoup plus tôt que la norme, mais je me suis sentie tellement bien. Et ils ont dit bah, t'as bien fait de nous dire que tu te sentais bien à ce moment-là, qu'on t'est poussé ou voilà. Donc, on n'a pas eu trop à me freiner. Et en même temps, j'ai été très à l'écoute de mon corps. Et je vous dis, le petit est adorable, donc j'arrive à dormir un peu. Donc, forcément, ça aide.
Alors, Clarisse, tu as évoqué rapidement un aspect que je trouve très intéressant et qui peut être un peu gênant pour un champion ou une championne. Tu as dit, c'était quand même pas tout à fait pareil après la grossesse d'Athéna. Pourtant, tu es revenue au plus haut niveau. Tu as été championne du monde. Tu as fait 2 médailles olympiques, une en or, une en bronze. Mais qu'est-ce que tu n'avais plus dans ton bagage? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as perdu?
Alors, je pense que pour la grossesse d'Athéna, déjà, je ne me suis pas préparée autant avant. Donc, j'ai fait du sport, mais voilà, très légèrement. Là, j'ai fait du sport vraiment. Je faisais des cardio encore la veille de l'accouchement. Donc, forcément, ça aide après pour la reprise. Et oui, je faisais des bons cardio. Ensuite, je pense que j'ai une meilleure écoute et entente de moi. Enfin, forcément, quand on a une première grossesse, on essaye de jauger. Donc, au début, j'avais peur. J'ai vite arrêté le judo. Là, j'ai fait du judo jusqu'au mois de décembre. Même début janvier, donc janvier, février, mars, c'est très rapide. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien, pareil, jusqu'à 6 mois de grossesse, mais vraiment des combats. Donc,
Est-ce que tu as eu l'impression de perdre en explosivité, par exemple,
il manquait beaucoup de force. Il me manquait énormément de force. J'avais perdu énormément de muscles.
Tu penses que tu vas tout récupérer?
Là, je pense que je suis pas mal. Je suis pas mal parce que comme je me suis entraînée mieux...
70%.
70%. 70%. Mais je suis pas mal parce que comme j'ai travaillé plus au niveau de ma musculature, j'ai moins perdu et j'ai moins laissé le temps. Là, et Athéna, elle est née en juin, donc il y avait juillet, août où je me suis laissée un peu pompélope, me reposer, tout ça. Donc forcément, il y a toute une grossesse où on perd beaucoup de choses, plus les 2 mois après, si on se laisse un peu aller, ça peut être compliqué. Donc le retour, j'ai eu un gros temps de retour. Et là, pour le coup, je me suis entraînée jusqu'au bout. J'ai repris tout de suite, donc j'ai eu moins de temps. Même si ça chamboule un peu, je me sens bien.
La confiance de la championne, hein, quand tu parles, là, il n'y a pas la place au doute.
J'ai l'impression qu'on parle à Clarisse Agbenyenou qui va être championne du monde.
Ah bah oui,
en octobre.
En plus, là, on a la qualification, c'est la journée olympique, il y a la qualification des Jeux qui a ouvert là au Grand Slam de Mongolie. Oui, ouais. Donc moi, je suis prête, hein. Je vais commencer ma qualif aussi.
Un palmarès XXL qu'on a rappelé. Ceci étant, tu reviens d'une grosse coupure. La concurrence française, elle est là, avec Manon Dekéter.
Bien sûr.
Aujourd'hui, est-ce que tu estimes que tu as quand même droit à des égards au vu de ta carrière ou tu repars sur un pied d'égalité avec Manon?
Pour moi, je repars sur un pied d'égalité. Donc,
La meilleure ira au championnat du monde, la meilleure ira aux Jeux Olympiques.
Et vous, c'est exactement. C'est une très bonne athlète qui a toutes ses chances depuis un bon moment. C'est quelqu'un qui a tout et finalement ça va faire une très belle compétition et moi j'ai que la concurrence en mettre moins, donc je suis bien contente d'avoir cette concurrence.
Est-ce qu'il va falloir une confrontation entre vous deux ou est-ce que c'est les résultats face aux meilleurs internationaux?
Je suis prête à tout. Je sais que je sais qu'on va se retrouver aussi pour pendant ces compétitions et c'est ce qui est bien. Donc moi je suis pour la rencontrer. Je suis pour, voilà, la concurrence est bonne. C'est une athlète qui est intelligente et qui fait elle est forte aussi. Donc ça va être la guerre et que la meilleure gagne.
On peut organiser ça, un combat.
Un combat
avec vous, ça peut être bien. Par contre, vous rentrez dans la
ring. Vas-y, Stephen. Je propose Stephen en premier.
Eric, merci.
Clarisse, je te donne un nom et tu me dis ce que ça t'évoque. Ok. Si je te dis Haruka Kaju.
Oui. ça m'évoque que en fait elle me cherche et que
on va me trouver.
C'est pas vrai, on va y aller tranquille.
Comment
on va y aller tranquille.
Cherche,
on va y aller tranquille. Non, mais vous savez que au championnat du monde l'année dernière, elle a dit qu'elle voulait me rencontrer.
Voilà.
Donc j'espère que je vais faire le championnat du monde pour qu'on puisse se rencontrer. Et puis c'est celle qui a battu tout le monde. Je pense que ça fait un an ou même un an et demi qu'elle est invaincue. Bah là, il y a une confrontation à faire. Et moi, j'adore les challenges.
Alors, c'est une Japonaise qui est championne du monde, mais ce qui est très particulier, c'est qu'en gros, il y a un an et demi, un peu plus, on la connaissait pas, et même dans le milieu du judo, parce que bon, la profondeur au Japon, elle est énorme, donc on connaît pas forcément toutes les filles et tous les garçons. Il se trouve que depuis un an et demi, elle a tout gagné,
elle gagne
jusqu'à
tout.
Être championne du monde.
C'est ça. Mais c'est une athlète qui est forte depuis un certain moment. Quand je vais en stage là-bas, elle me prenait tout le temps. Elle était horrible.
Ah ouais.
Horrible. En fait, qu'ils ont tellement d'athlètes qui sont bons que forcément ça noie un petit peu. Mais finalement, celle qui est quatrième, cinquième, elle peut être championne du monde parce qu'elles sont extra quoi. Donc ça me choque pas. Mais en tout cas, il faut que j'arrête son règne.
Est-ce que tu travailles ton sol justement parce qu'elle est spécialiste du sol?
Je travaille mon sol. Je fais du JJB au moins une fois ou deux fois par semaine. Donc je travaille mon sol. Mais ça va se passer debout. Elle
pas
est
affolée. Hein.
Ça va se passer debout.
Non, ça va se passer debout.
Il y a rendez-vous là. J'ai un rendez-vous là.
Non. Mais il faut lui mettre une grosse boîte, un gros hippon.
C'est ça le truc qui est aussi intéressant d'un point de vue tactique, purement sportif, c'est que toi, tu gagnes tes combats debout. Tu fais tomber, ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas de sol, mais en général, tu n'en as pas besoin. Elle attire ses adversaires au sol et elle gagne au sol.
C'est ça.
Ça veut dire qu'il va falloir la battre debout.
Bon, je la battrai.
Mais ça serait mieux
encore,
ça serait mieux de la battre au sol.
Mais je ferai, de toute façon, je vais lui laisser aucune opportunité. Ah oui.
Cette détermination, c'est.
Il faut. Non, mais si je crois pas en moi, qui va
croire en moi. Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes, Clarisse, très franchement?
Il y a des moments où je doute.
Peux-tu nous donner un exemple?
Je sais pas, quand j'étais enceinte et que je me disais, bon, est-ce que je vais réussir à reprendre? Est-ce que j'aurai l'envie? Est-ce que j'aurai la motivation? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que mon enfant sera en bonne santé? On a des moments de doute comme ça qu'on maîtrise pas. En fait, quand on maîtrise pas, c'est super difficile.
Mais par contre, t'as pas de doute. En combat, sur un tapis, face à une adversaire.
Alors, j'ai pas de doute quand je mets les choses en place. Okay. Et du coup, j'ai mis les choses en place depuis ces derniers mois, ces derniers jours. Et là, je me sens bien. Et ça fait que j'ai pas de doute. Mais si je mettais pas les choses en place, bah forcément, je me dirais, bon, c'est un peu compliqué. Là, je suis en train de me mentir à moi-même. Et ça, non.
Tu as tout vécu. Est-ce que tu aimes toujours autant le judo? C'est-à-dire le matin, te lever à peut-être 6h du matin,
te lever
le matin en disant je vais passer une journée encore à souffrir, à faire du judo. Est-ce que tu aimes toujours autant ton sport, avoir des combats, etc.?
Eh ben j'aime toujours autant parce que je pense que le fait de faire ces pauses aussi, maternité, me font énormément de bien. Je pense à autre chose, je fais autre chose, je travaille différemment et ça me permet de me dire quand je reviens, je mets les curseurs à 100% au judo et puis là à chaque fois je me dis je fais 2 ans. 2 ans, ça passe vite, c'est rien. Je ne fais pas 4 ans d'Olympiade, j'en fais 2. Donc 2 ans, je peux me donner à fond et je n'ai pas le moment à me dire « Oh là, je suis saturée ».
Il n'y a pas un truc que tu n'aimes pas parfois? Tu dis « Non, ça, je n'ai pas envie de le faire ».
Cardio, si,
ça c'est lourd.
Le cardio peut-être, non?
Si, parce que je sais que j'en ai besoin. Du coup, j'y vais. Non, il y a des choses, mais pour l'instant, je sais que j'en ai besoin et que ça va m'apporter pour que je gagne.
Tu te mentalises quoi?
Je me mentalise. Et puis, j'aime m'entraîner. C'est mon moteur au quotidien. C'est de l'énergie. Je m'entraîne même pas pour me dire des fois. Mon frère me dit mais pourquoi tu fais ça? Je dis mais parce que j'aime. Il me dit mais t'es malade. J'ai dit j'aime juste m'entraîner pour me sentir bien et puis ça me donne ce petit coup d'énergie de la journée. Et après des fois je dis mais je m'entraîne pour pouvoir porter mes 2 enfants dans les bras comme ça ou porter la poussette. Ça me donne de la force. La dernière fois j'avais les 2 qui dormaient, j'ai porté à bout de bras le sac et l'activité et déjà ils me regardaient comme ça dans la rue.
Eric.
Mais du coup tu t'es donné une limite parce que bon à un moment donné on pense à la fin ou c'est ton corps qui dira stop?
Alors non, je me suis donné une limite parce que j'ai aussi plein de choses à faire dans ma vie. Pas que le judo. Non, j'ai fait pas mal de choses déjà dans le judo. Je pense qu'après les Jeux de Los Angeles, je partirai pas sur Brisbane. Enfin, je suis sûre que je ne referai pas 4 ans. J'aurai sûrement une autre grossesse parce que j'adore ça et puis j'ai envie d'avoir un troisième enfant. Mais je retournerai pas à Brisbane. Après, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Ça dépendra aussi des Jeux Olympiques. Si je fais un championnat du monde derrière ou 2 ans. Mais après ça, on me reverra plus. J'ai plein de choses à. Non, mais j'ai plein de choses à faire.
Tu reviendras nous voir quand même.
Il y a des adversaires qui arrêteront de faire des cauchemars.
Ouais. Oh, exactement. Parce que quand je suis retournée en stage là, en Espagne, elles ont dit on est trop contents de te voir, mais par contre,
tu vas nous faire mal.
Clarisse Agbenienou dans le Super Moscato Show. Merci beaucoup, Clarisse.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci. Et donc, on surveillera les sélections cet été. Il y a des championnats du monde en octobre en Azerbaïdjan. On y sera bien sûr avec Morgane Maury, comme toujours. Et je vous rappelle que c'est la journée olympique. Il y a un très beau cadeau à gagner, puisqu'il y a les championnats d'Europe de natation à Paris cet été, donc avec toute l'équipe de France et notamment Léon Marchand. Il se trouve que le CNOSF vous permet de gagner des entrées pour ces championnats d'Europe en postant votre plus beau souvenir olympique. Donc vous allez sur les comptes de l'équipe de France
si on peut jouer
olympique. Je pense que
tu peux jouer. Tu veux nager contre Léon?
Non, je veux juste applaudir.
Faire du judo avec lui.
L'adresse est @équipefra si vous voulez tenter votre chance. Merci beaucoup Clarisse.
Merci Clarisse.
Et à très bientôt dans le Super Moscato Show. Vous avez reconnu l'alerte, c'est l'heure de vous inscrire pour la prime de match RMC. Vous avez 10 minutes pour envoyer but par SMS au 7-32-16. Vous avez donc 10 minutes, pas une de plus. Et une fois que vous êtes inscrit, à tout moment, vous pouvez recevoir un appel d'RMC en direct. Et si vous donnez le montant exact de la prime quand on vous appelle, eh bien c'est gagné, c'est dans la poche. Actuellement, au moment où on se parle, la prime est de 36 500 euros. On ajoute 500 euros à chaque but inscrit dans la Coupe du Monde de foot. Donc but par SMS au 7-32-16. Mais si, dans un instant, c'est de nouveau notre cri du cœur sur RMC.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC, il est 15h30, dans une demi-heure. C'est le rugby, nous allons parler de Montpellier. Comment ne pas faire un complexe d'infériorité face à Toulouse? Vincent règle problème, en tout cas le Super Moscato Show règle problème. D'ailleurs, c'est un débat qu'on aurait pu faire avec les adversaires de Pogacar, Jérôme. Hein.
Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est comment ne pas faire un complexe d'infériorité par rapport à cette domination. Tout le monde se pose la question, mais on a tous à peu près la même réponse. Il va être encore incroyable et tout le monde a peur. Hein.
Tu peux croire en tes chances, c'est impossible de te dire que t'es favori face à Pogacar.
Tu dois respecter et avoir confiance en toi. Mais
au vélo, tu peux le pousser dans le ravin, par contre.
C'est pas très recommandé.
T'as déjà fait, Stephen, toi, un complexe d'infériorité sur un parquet?
Non, à l'école.
Ah oui.
Au basket, non, mais à l'école, oui.
Le jour du bac, voilà, t'es pas allé, tout simplement.
On est avec Jérôme Pinault, Eric Dimeco et Stephen Brun cet après-midi et on reparle de Léo Messi.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
Messi a encore inscrit un doublé, l'Argentine a encore gagné, cette fois contre l'Autriche, score final 2-0. Il y a deux Messi dans cette Coupe du Monde. Il y a celui qui marche et qui fait absolument rien, qui se désintéresse de tout quand l'adversaire a le ballon. Et puis, il y a celui qui finit les actions de l'Argentine. Et celui-là, il est toujours stratosphérique. On l'a vu encore hier. Écoutez les louanges d'abord de son coéquipier Lisandro Martinez, puis de quelques supporters argentins.
Lautaro, non?
Non, Lisandro, le défenseur central de Manchester United. Pardon. Ainsi que les supporters qui étaient présents dans le Texas hier.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de mots, il faut juste en profiter. Il ne faut pas le comparer, car il est unique, il est seul au sommet, il ne reste qu'à apprécier. Je ne trouve pas les mots. Je ressens juste une énorme émotion de pouvoir l'avoir au quotidien ici, et qu'il soit argentin.
Messi, gracias, gracias, gracias por todo, Messi. Eres increíble, Messi, eres increíble. Tantos momentos de felicidad que nos has dado. Gracias. Gracias desde el corazón, Messi, por todo lo que has dado al fútbol.
Voilà, on vous a pas traduit les supporters parce que on comprend les gracias quand même, hein. Et puis c'est le meilleur de tous les temps et il est chez nous, disait la supportrice. Eric, ça va durer ou c'est juste début de la Coupe du Monde?
Non, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, dans le sens où tu l'as dit, lui, il joue les coups offensifs avec son talent, son flair, sa technique, et surtout les autres sont là à son service. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors ça s'arrêtera peut-être parce que l'équipe argentine sera tout simplement moins forte que l'adversaire. Mais lui, il n'y a pas de raison. Des ballons dans la surface, il en aura toujours. Tu as vu les 5 buts qu'il a marqués. C'est du pif, c'est du talent, c'est tout. Ce qui est marrant dans cette histoire quand même, c'est que vous vous souvenez quand même qu'à un moment donné, il arrête la sélection parce que il est pas aimé
à l'époque.
Et Mais Maradona, il était à aucun moment on pouvait le comparer à Maradona en Argentine. Et ouais, j'ai accroché. Et on en est là maintenant.
Donc, bah oui, là. C'est notre métier.
Alors, on va le faire à tout le monde. Il n'y a pas de souci.
Ah bah oui.
Et donc, alors que là maintenant, ça y est quoi. Il aura donné une Coupe du Monde. Et puis là, il commence.
C'est fou l'histoire.
Il est énorme, raison. Mais il y a pas de raison que ça s'arrête.
T'as raison, Eric. En 2018, souvenez-vous, ils se font sortir par les Bleus en huitième de finale.
Mec, ça peut différer.
C'était il y a 8 ans. Il a 35 ans. Il avait 31 ans. Et le commentateur argentin qui dit c'est terrible, c'était certainement la dernière Coupe du Monde de Messi, il sort en 8e face à Mbappé, puisqu'il aura 35 ans dans la prochaine, on n'est pas sûr qu'il soit là, vu ses échecs avec l'Argentine. C'est fou en fait, c'était en 2018 ce commentaire.
C'est dingue, mais surtout hier, quand je regarde le match, il y a une constante, c'est que les mecs, ils le cherchent systématiquement
tout
quand ils ont le ballon.
Tout le temps.
Sur son premier but, il y a un Argentin, je ne sais plus qui c'est, il peut frapper sur le centre en retrait, mais il laisse passer entre les jambes parce qu'il sait qu'il y a Dieu derrière qui va mettre une frappe et qui va marquer. Il a une aura par rapport aux autres joueurs quand il y a pénalty. Il y a un Argentin qui a le ballon dans les mains, il attend la confirmation de l'arbitre, pénalty, il va donner le ballon, mais il est content, il dit tiens,
il protège le ballon.
Tiens, je te donne, c'est l'offrande pour que tu
mettes.
Est-ce que ça, c'est pas le rate.
Et puis l'aura de Messi fait que Facundo Medina, c'est top 5 arrière gauche de la Coupe du Monde depuis deux matchs. Et ça, c'est problématique.
Eric l'a remarqué.
Eric. C'est clair.
Eric nous envoie un message pour dire il est énorme.
Jérôme Pinault.
Non, mais je suis en admiration, évidemment, comme tout le monde. Après, est-ce que. Moi, je pose la question à Eric. Est-ce que justement la limite de cette équipe va pas venir de là? Parce que on va pas toujours jouer avec des équipes qui vont délaisser. Parce que hier encore l'Autriche, tout le monde le sait. Messi, c'est et hier j'ai trouvé que l'Autriche était très large par rapport à Messi. Elle lui laisse des espaces qu'elle devrait pas. Et ils vont pas toujours rencontrer ces équipes-là. Et je pense que contre une équipe mieux structurée et plus forte, si Messi n'a plus les espaces nécessaires et la liberté nécessaire, eh bien il va falloir trouver d'autres solutions.
Ouais, je pense qu'ils ont les autres solutions.
Ils ont des joueurs de football, mais Messi attire
ils tout. Ils le chercheront toujours, cette équipe, en fait, ça, le truc.
Elle est aimantée par Léo Messi, qu'elle joue pour lui, comme tu l'as dit. Il n'y a aucun repli défensif de la part de Messi, mais tout le monde s'en fout. Je pense qu'à un moment donné, contre une grande équipe, il faudra jouer à 11 et pas à 10. Et là, Léo Messi, ça risque de poser un problème, je pense.
Jérôme, je veux bien qu'on essaye de minimiser. Alors l'Algérie, ils n'ont pas été bons, mais l'Algérie, c'est censé être une équipe correcte. Ah, oui. L'Autriche, quand je vois Danso à la barre en défense centrale, Danso à la barre, c'est quand même deux joueurs
d'accord, équipe correcte.
Haut niveau.
Moi, je te parle d'une grande équipe quand tu veux rencontrer l'Allemagne, l'Espagne, la France.
Mais ça va arriver un peu plus tard.
Mais
l'autre point, moi, qui me surprend, c'est que Messi, il a 38 ans, il est en MLS, peut-être. Alors oui, il n'a pas le même rythme de course que les autres, mais il a fait deux fois 90 minutes.
De Paul aussi.
Il a fait deux fois 90 minutes.
Non, mais c'est sûr. On fait aussi ces débats sur les championnats. On va finir par parler que la Ligue 1 est finalement un bon championnat parce que la MLS en est un bon, puisqu'il y a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite et en MLS et qui jouent 90 minutes sans plier. Donc au final, le rythme de cette Coupe du Monde pour le moment est acceptable pour ces joueurs-là. Est-ce qu'elle le sera jusque dans les phases finales, les quarts, les demi et la finale? Moi, j'en suis pas sûr.
C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont tomber sur un système défensif en face, beaucoup plus performant que ce qu'on a vu sur ces deux matchs-là. Et il va falloir que Lautaro mette des buts, il va falloir que Alvarez joue un peu plus peut-être à un moment donné. C'est obligatoire pour moi. Moi, tout le monde s'extasie sur l'Argentine.
Je ne les ai pas trouvés. Peut-être que je me trompe.
Moi, j'ai tendance à m'extasier, tu sais pourquoi? Je trouve qu'ils ont rien perdu par rapport à il y a 4 ans, en fait. Et il y a 4 ans, ils sont champions du monde. Hein.
Oui, mais il y a 4 ans, ils sont champions du monde, tu te souviens comment?
Tout parcours est un peu délicat pour être champion du monde, de toute façon.
Mais moi, j'arrive pas à y croire. Mais maintenant, je me tromperais sûrement, peut-être.
Et si ça s'arrête là, il aurait mis 5 buts quand même.
Lui, c'est son parcours est déjà réussi quasiment là.
Lui, il dit pas ça, les gars.
Mais c'est énorme puisque tout le monde est en train de penser que Messi va battre le record sur une compétition.
Il a mis les cinq buts de son équipe. Il est soi-disant invité parce que c'est Messi, mais en fait c'est lui qui porte l'équipe. Évidemment que lui, pour le moment, peut être qu'admiratif. En revanche, moi, je te rejoins, Eric, sur la qualité de jeu et sur la vitesse d'exécution de l'équipe d'Argentine. Le jour où ils vont rencontrer une des grosses nations nations de cette Coupe du Monde. Je te parle là, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et l'Espagne, même s'ils ont brouté au démarrage, je pense qu'il va en manquer un bout. Moi,
vous avez vu le match, j'ai eu le sentiment, dites-moi si vous partagez, vous trouvez pas que les arbitres ils sont gentils avec
terrible.
Le dernier match, c'est un cas, on en a parlé, il devait prendre rouge, mais globalement, ils mettent des taquets. Parfois un peu mesquin. Bon, vous avez vu, il y a beaucoup de ralentis pendant la Coupe du Monde. Le réalisateur se régale. Il passe toujours un peu rapide. Par derrière le petit coup de coude qui va bien, etc.
Mais ça, c'est la théorie de la quantité. Quand tu fais 50,
c'est parce qu'ils sont champions du monde aussi, c'est un statut. C'est l'équipe de Messi.
Adrien, l'arbitrage, il laisse beaucoup jouer sur ces coups-là, quelle que soit l'équipe.
J'allais te dire, ce serait bien qu'on parle de l'arbitrage, parce que moi, j'aime cet arbitrage-là, parce que ça laisse beaucoup.
T'aurais été heureux, toi, dans cette Coupe du Monde, Eric. Hein.
Non, mais moi, je suis heureux de voir un match où, chaque fois qu'il y a un mec qui tombe, il n'y a pas coup franc.
Non, mais Eric, les Argentins,
Les Argentins, ils ont toujours été comme ça, donc ils ne vont pas changer. Alors maintenant, à te dire que quand je vois ça, ça m'énerve.
Bien sûr, parce que tu t'imagines en face.
Alors là, ben celui dont tu parlais tout à l'heure là, Martinez Paul. Derrière là, je peux te dire que
hier en Autriche, l'arrière latéral Leimer, il a pété les plombs, il était prêt à leur casser la tronche, mais c'est ce qu'ils veulent en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ben
regarde la dernière fois contre les Pays-Bas, ils pourrissent le match,
De Paul,
avec une petite entrée à chaque fois de 10 minutes de Paredes pour
Otamendi, Otamendi, Paredes pour finir le travail.
Dibou qui va entrer en scène, vous le savez.
Dibou, il a pas pris filoche encore.
Dibou, hier, belle petite simulation sur un contact à la tempe. Hein.
Évidemment. Mais même dans ce cadre-là du match et dans cette ambiance-là, on sent même que là, Messi va mettre des coups de savate, il va mettre des coups de coude, il va pas être sympa, et tout de suite c'est le chef de bande. Dès qu'il y a un mec qui se rebelle un peu, ils sont 5 autour et tu sais qu'ils sont prêts à toucher Dieu.
Il y a un truc qui est fort, qui les a portés il y a 4 ans, c'est qu'ils voulaient le faire pour Messi, et là en fait ils se rendent compte que c'est de nouveau possible, et donc ça leur donne un surcroît de motivation, de confiance et d'unité qui va être très difficile à bouger. Ils sont arrivés peut-être en se disant on verra bien, je ne sais pas.
Mais voilà,
ils sont convaincus que ça va repasser comme la dernière fois.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais je pense que le jour où ils vont être un peu dans le dur et que ça va être un peu compliqué et qu'il n'y aura aucun repli, c'est là où est-ce que ça ne peut pas commencer à monter en sauce, parce que tu ne peux pas jouer comme un yinche au milieu de terrain et en voyant le mec qui marche dans un match où tu es un peu bousculé et que tu ne pètes pas les plombs.
Je pense qu'ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés par ça. Ils savent que très bien.
Steve, conditionné, d'accord. Mais à la 70e, quand tu as les abeilles et que le mec revient en marchant, tu commences à chauffer un peu, je pense.
Non, il aura donné. Attention, là, tu sais, quand tu es avec un joueur comme ça qui t'a fait gagner. C'est-à-dire le mec qui t'a fait champion du monde, tu vois. Donc
il fait de temps en temps les deux petits pas qu'il doit pas faire à l'Inter Miami, tu vois. J'ai remarqué, j'ai fait attention à ça hier.
Toutes les 18 minutes.
Quand le joueur est à 1m50, il fait met le pied et parfois il récupère quelques ballons. Ça peut arriver.
Allez, c'est l'heure de parier sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Plenet. Salut Christophe.
Bonjour Pierre. Bonjour à tous.
Alors, il y a beaucoup de matchs au programme aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Portugal-Ouzbékistan à 19h, il y a Angleterre-Ghana à 22h, Colombie-Congo à 4h du matin, Panama-Croatie à 1h.
Et on parie justement sur l'affiche de cette journée, Angleterre-Ghana. Deuxième journée du groupe L, l'Angleterre qui s'est imposée 4-2 contre la Croatie, le Ghana a battu difficilement le Panama, les Anglais archi-favoris 1-17, la victoire des Three Lions, 7-50 le nul, 13-50 la victoire des Black Stars du Ghana. Je vais vous proposer l'Angleterre plus Kane, je mets ma maison dessus, c'est côté 1-70, le doublé de Kane à 3,60. Je mets la pige de Stephen Brun.
Propriétaire ou locataire?
Propriétaire.
La pige de Stephen, ouais. 20 000 euros.
Et le pénalty de l'Angleterre à 3,10. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait, les garçons? Monsieur Dorian.
Alors, on est ambitieux pour l'Angleterre, qu'on a trouvé séduisante au premier match. Une victoire par 3 buts d'écart.
C'est coté à 2,20.
Comment?
2,20.
Pour 3 buts d'écart. Exactement. Vous enlevez ça, on change. Alors, ça paye pas, ça. Oh.
Le pénalty.
3 buts d'écart, vous croyez que ça tombe du ciel comme ça? Non, mais ça va pas ou quoi?
Tu mets un but de l'adversaire.
Non. Alors, Eric, et ensuite, je réfléchis.
Ah, d'accord. Bon, alors, écoute, moi, je vais prendre le petit pronostic de l'Angleterre avec Kane et ça suffira mon bonheur.
Alors, 1,70. Angleterre gagne les demi-temps. 3 buts d'écart et Harry Kane buteur.
Ah, tu me prends à défaut là.
Voilà. Tu calcules tout ça, ça fait du 4.
Ah, voilà. Ça, voilà.
Je veux calculer tout ça.
Merci.
Je te dirai tout ça. Merci Pierrot pour la peau de banane.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Journal moyen, première édition.
Ça donne quoi à l'audience d'un match de Coupe du Monde de l'équipe de France quand on est censé dormir? Ça arrive quasiment jamais. Et ben, c'est assez impressionnant malgré tout. Petite page canicule. J'ai des petites techniques pour vous éviter d'avoir trop chaud. C'est à la mode. Et puis le classement, très intéressant, des meilleurs salaires en équipe de France de foot en ce moment. Salaire qu'il gagne en club. Il y a des surprises.
On pensait qu'il est premier quand même.
Le premier
triplé.
Il n'y a pas d'autre.
Triplé.
15h44, à tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Bienvenue sur RMC, c'est le Super Moscato Show avec Eric Dimeco, Stephen Brun, avec Jérôme Pinault et Adrien Aigouin. C'est l'heure du Journal Moyen, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, les audiences, l'audience de France-Irak en pleine nuit. Eh ben, il y avait du monde. Une petite page canicule, il fait chaud en France, faut faire attention. Et puis un petit tu préfères. Vous écoutez RMC, juste un anniversaire, à peine important aujourd'hui, à peine important. On a débuté l'émission depuis 15h, on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Dieu.
Ah.
Oui, Dieu est né le 23 juin 1972. Dieu a donc 54 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Zizou.
Si vous voulez parler d'autre chose, vous me parlez d'autre chose.
Mais non, c'est l'anniversaire, on a le droit.
C'est pas l'anniversaire de Patrick Vieira aussi.
Je ne sais pas, mais c'est moins important que celui de Dieu. Voilà, 54 ans.
Putain, mais qu'est-ce que t'as des Zizou comme ça, toi?
Je suis fan de Zizou quand même. Pierrot, il est fan de Platini. Moi, je suis fan de Zizou, c'est comme ça.
Mais toi, le mec qui bat de Federer, tu sais.
Ah oui. Je te renvoie la question.
Mais je lui souhaite pas. Ouais, non, mais ça me déconne.
C'est comme ça, Zizou.
Ah non, tu fais autre chose, je crois.
Chacun son petit jardin secret.
T'as le poster de Zidane, j'en ai dans ta chambre.
Oui, j'en ai.
Zidane, c'est normal.
Dans les toilettes, j'en ai un. Une du journal de l'équipe.
Ah donc quand tu gagnes, tu lui parles. Zizou, ouais, bon.
Tous les soucis, je lui dis, Jérôme, qu'est-ce que je dois faire?
Tu sais que moi, j'ai eu l'immense honneur de jouer au foot avec Zidane.
Ah oui.
Et il s'en rappelle d'ailleurs, Zizou, il nous en a parlé.
Ouais. Bien sûr qu'il s'en rappelle.
Et dis-moi, qui est plus fort, Federer ou Zidane, Jérôme?
Zidane.
Oui, bien sûr.
Vous écoutez RMC.
Il n'y a pas de débat.
Joyeux anniversaire, Yazid. Joyeux anniversaire, Yazid. Parce que c'est proche, il appelle Yaz.
Tu sais que Yazid, il a le poster de Jérôme Pinault, toi.
Bien sûr. Bien sûr qu'il a.
C'est la cuvette.
Toi, t'es sur le rouleau, toi.
C'est le 2712e journal moyen de l'histoire de Super Moscato Show.
En direct de la rédaction de RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
C'est la Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique, Canada. Jingle, bonjour.
An orange,
ah, il est là,
a bon. Café.
We will make America great again.
An orange juice. Mm-hmm. Un café.
Alors, l'audience de France-Irak sur M6, 3-0, coup d'envoi 23h. Donc déjà, on savait qu'il n'allait pas atteindre les 14 millions de moyenne de France-Sénégal. L'orage, catastrophe, des éclairs. On évacue le stade, on revient, on évacue le stade. 2 heures de mi-temps, donc c'est très long. Le match se termine à 3h04. Eh bien écoutez, en moyenne, je vous parle d'une moyenne, c'est quasiment 5 millions de téléspectateurs, 63% de part d'audience. Et première période, il y avait 9 millions de personnes devant la télé. Première mi-temps, d'un match de 23h des Bleus, il y a quand même 9 millions de personnes en pleine semaine qui regardent le match.
Il y a combien de personnes à Pôle emploi en France?
La deuxième période, c'est quasiment 3 millions quand même, hein, jusqu'à 3h du match, c'est fou. Bon, je pense que le France-Norvège vendredi,
c'est les gens
à 21h, ça va cartonner. Non, vous êtes passionné, nous. Ouais. Moi j'ai un boulot, j'ai regardé. Hein.
Non, t'as pas regardé.
Ah, si, j'ai loupé aucun but. Je te promets.
Qu'est-ce que ça fait pendant la pause de 2h alors?
Je fais des micro-siestes. Je suis en rang de la micro-sieste.
D'accord.
Un petit pronom pour France-Norvège vendredi, 21h. Vendredi 21h. Il fait beau.
14,
même que France-Sénégal.
Ouais.
Il y a Haaland, attention.
À 15, ouais.
Il y a quoi?
Il y a Haaland en face. Star, vendredi soir en plus. Hein.
Ça dépasse le Sénégal. Ouais. Ça dépasse le Sénégal.
Ouais. 14
oui, parce 15. Que malgré tout,
c'est la finale en plus.
Exactement. Il est porté de ce match-là de rien.
Et puis début de week-end, prime time, non, tout est réuni pour une grosse audience. Hein.
Ah,
gros
beau,
carton.
Il fait beau, il y a des gens qui vont se barrer. Quand
ouais, après, et puis il fait match la nuit là.
Bien sûr.
Il fait 40 degrés.
Ah, c'est 21h, ça va faire barbecue, piscine, pétanque, football.
Mbappé face à Haaland.
Tout le monde n'a pas de piscine et tout le monde n'a pas un barbecue non plus.
Énorme problème avec la canicule, les gens regardent beaucoup en extérieur.
Barbecue, ça va, piscine, c'est plus compliqué.
Et en fait, selon où t'es avec ta connexion, il y a des décalages de 30 secondes.
C'est pénible.
Bien sûr.
C'est fou.
Il faudrait que l'État français fasse un truc.
pourri la Coupe du Monde de certaines personnes.
Mais t'as pas vu une vidéo des mecs qui étaient spoilés par des gens qui étaient en bas parce qu'ils avaient du retard.
J'avais attendu.
Et eux, ils ont crié alors qu'il n'y avait pas vu. Ils ont fait ouais, ouais, ouais. Ils ont regardé en bas à la fenêtre et les gens regardaient comme ça. Et il y en a qui
ont dit. Non, mais Chico, quand tu récoltes de ça, Steve, tu le fais exprès.
Ah, c'est toi qui l'as envoyé, non?
Oui, c'est Dimeco avec Vincent. C'est Vincent qui a raconté.
Mais on l'a fait avec Veysal sur le premier match.
Ah, moi j'ai vu une vidéo.
Mais t'étais pas là quand il a raconté. Sans transition, il fait chaud, il fait très chaud en France.
Le mec, il m'insulte.
Très, très chaud.
Non, pardon. Mais
c'est la canicule. Il y a des records de chaleur. On va s'approcher des 40 degrés. Hier soir, édition spéciale de BFM TV dans les rues de Paris. Lisa Adef, reporter de BFM TV, interroge un jeune homme sur une terrasse avec une bière devant lui. Vous savez, le sujet, c'est pas boire d'alcool trop, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, bah, ça déshydrate. Donc elle s'approche de la table. Il y a deux, trois jeunes avec des bières. Lisa est tombée sur un petit malin, un cancre, qui est fan de l'INA. Vous savez, c'est le site où on peut voir des reportages sur il y a 30, 40 ans. Donc elle interroge ce jeune homme qui a une bière. Il y a aussi une petite gourde d'eau à côté de lui.
Est-ce que vous avez le sentiment, en buvant ce verre d'alcool, que ça vous désaltère, que ça vous fait du bien? Qu'est-ce que vous ressentez avec ces chaleurs?
Ouais.
Alors ça désaltère pas forcément, c'est pour ça qu'on a quand même la bouteille d'eau à côté. Et moi je suis un grand fan de l'INA et je me rappelle d'un reportage des années 70 qui recommande de boire 1,5 litre de bière par jour pendant la canicule pour lutter.
Je rappelle qu'il est dangereux de consommer de l'alcool.
Évidemment ça remplacera jamais l'eau, mais on n'est pas là uniquement pour se désaltérer, on est là pour passer un bon moment, prendre une petite bière au bord de la Seine, avec la fanfare qui est derrière.
La fanfare, il avait envie de teaser lui, mais Elisabeth, elle rigole pas, hein. C'est avec modération.
C'est vrai que ça fait partie de la fête. Hein.
Mais avec modération, il y a Stephen qui est en train de chasser un moustique dans le studio, c'est incroyable.
Comme
c'est le bruit des cigales, ça ramène des petites bêtes.
Oh, toi, tu dois avoir une peau qui aime bien les moustiques.
Ouais. Ouais.
C'est pas un moustique, c'est une mouche.
Une mouche, ouais, oui. Mais elle dérosse la mouche. Là. Sans transition, disparition d'une chanteuse.
Tu dois avoir une odeur qu'ils aiment bien. Que les mouches aiment bien.
Non, tiens, on va pas faire la chanteuse tout de suite. On va faire le classement des salaires. Moi, ça m'a vraiment surpris. Coupe du monde, foot et argent. Jingle.
Ouais. Connais mieux les tarifs du football que moi, parce que moi, les histoires d'argent, ça ne m'intéresse pas.
Alors, toujours intéressant, le site Sportune a publié un classement des salaires des 26 joueurs de l'équipe de France qui sont présents à la Coupe du Monde. Ils prennent en compte le salaire du joueur dans son club dans lequel il jouera la saison prochaine, d'accord? Okay. S'il y a des joueurs qui ont été transférés, on compte le nouveau salaire. Donc, numéro 1 sur 26, il n'y a pas d'arrangement là, c'est comme ça. 32 millions par an de salaire au Real Madrid, c'est monsieur Kylian Mbappé. Qui est deuxième?
Mais attends, Cristiano ne gagnera pas plus.
Non, des joueurs
français.
Les 26 bleus.
Ousmane, non?
Dembélé, non, il est loin.
Cherki,
non.
En deux, Olysée.
Mais non, il est loin, Olysée. Il a 12 millions par an.
Tu vois,
mais non, mais c'est Lucas Hernandez.
Comment?
Upamecano.
Alors, Upamecano est troisième avec 20 millions.
En Arabie Saoudite.
Non, deuxième, il va le gagner ce salaire, à son premier salaire au Real Madrid dans quelques semaines.
Chouameni.
Konaté. Ibrahima Konaté, 22,5 millions par an.
22 bars.
Mais c'est incroyable. Chouameni, il est à 10,5. Il va faire la tête, Chouameni. Hein. Konaté, il est même pas titulaire à la Coupe du Monde.
Ah bah non, mais
Puis là, il y a Villa Charnière.
Donc, 22,5, c'est le deuxième. Le troisième des Bleus, c'est Upamecano. Quatrième, Dembélé. Et cinquième, Eric, effectivement, Théo Hernandez, 18 millions par an. Et arrive ensuite Saliba. Le dernier,
c'est Robaricière de Lens, non?
Ouais, alors lui, il a même pas atteint le million dans l'année. Ouais. C'est 960 000 de ça a l'air un peu cher. C'est Eric.
Ça doit être terrible, le gars de Thierry Mann.
C'est le seul qui n'a pas le million annuel. Il est dernier. Ils ont tous le million. Akliouche, il est avant-dernier. Le cinquième, il touche 2,5 millions par an.
Alors, déjà, à mon époque, et c'est encore pire aujourd'hui, les mecs, ils doivent raconter les trucs qu'ils achètent.
Ah ouais, c'est cher. Tu sais,
quand tu tiens dans un
messier. Robert Rissard, il doit dire, les mecs, je me suis acheté des AirPods Pro.
C'est même pas ça.
Après,
c'est même pire que ça. Quand tu pars en déplacement, tu regardes rien que les magazines qu'achètent les mecs. Quand t'achètes auto machin, eux c'est Porsche. Tu te dis bon, on n'est pas dans le même monde.
Mais c'est là que tu vois qu'il va y avoir un vrai enjeu sur la prolongation de Dembélé au PSG, parce qu'il a il a un salaire, il peut prétendre à beaucoup plus en fait.
Mais qu'est-ce qu'il veut?
Non, mais c'est pas. Je dis pas qu'il faut pas. Ça va être un vrai enjeu. Ça va être intéressant.
Robert Rissard, on n'est pas inquiet pour lui. Il va faire péter le million.
Ouais.
En rentrant,
on me dit pour revenir, je me fais chambrer là avec des messages. J'ai un Eric qui m'appelle sur Zinedine Zidane et l'anniversaire. On me dit quand t'auras fini de flatter à longueur de journée notre ami Zidane, tu aurais pu spécifier effectivement que c'était l'anniversaire de Patrick Vieira aujourd'hui et de Jean Tigana.
Jeannot, un chouïa susceptible quand même, Eric.
Non.
Non, mais je savais pas que c'était
c'est son
le
pote
même
Eric qui peut pas dire, mais
c'est ton pote.
Non, mais un caractère un petit peu nerveux.
Non, ça va. Il revendique Jeannot. Il est
71 ans aujourd'hui. Il est beau.
Il est pas gentil, gars.
Alors tu sais comment les jeunes à l'AS Monaco, c'est des matins il arrivait à l'entraînement, tu le voyais qu'il avait les couilles à l'envers, et là il appelait méchant Ghana, il appelait
méchant Ghana.
Ouais. Mais là c'est méchant Ghana. Non, mais il le disait pas devant lui, hein. Je peux te dire.
Gentil Ghana, Vira.
Et tous les petits jeunes là, les Thierry Henry, tout ça là.
Joyeux anniversaire. Voilà.
Cette génération là, ils sont tous nés en 3 jours de différence. Il y a pas eu Luis Fernandez il y a pas longtemps. Platini, Tigana,
c'est la même portée. Ouais.
Ah ben on embrasse Jeannot, oh. Il est beau comme tout. J'imagine avec lui il n'y a pas longtemps, il est beau comme tout.
Il a quel âge Jeannot maintenant?
71 ans. Aujourd'hui,
71 ans.
Il est bien.
C'est-à-dire qu'il a futé. Hein,
quand... Il est beau, il est très beau. Bravo. Beau, hein. Voilà, joyeux anniversaire à tous ces champions. Dans un instant.
Il reste hydraté quand même, Jeannot. Hein.
La finale du top 14. Montpellier, comment ne pas faire un complexe d'infériorité? On règle le problème dans le Super Moscato Show avec un invité exceptionnel. C'est Fulgence Ouédraogo, le capitaine du dernier titre de champion de France de Montpellier. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.